Ce Radio Barque numéro 33 prévoit au sommaire maintenant, Michel, un petit regard sur le championnat du monde de rugby qui vient de se terminer à Narbonne.
Oui, mais Jean-Claude, dans l'indifférence quasi généralisée, en tout cas dans Narbonne même.
Hein. Oui. Or, les lieux du stade.
Oui, alors c'est justement ce que je voulais en venir à la figure que j'étais, comme souvent, en fait, assis à la terrasse d'un café, je voyais des petits drapeaux flotter là au-dessus de la marquise, entre parenthèses, dans un état épouvantable. Qui protège
les drapeaux ou la marquise ?
Les drapeaux et la marquise. Surtout la marquise d'ailleurs, qui est vraiment en face de l'hôtel de ville.
Donc tout ne va pas très bien, madame la marquise.
Non, parce que alors, tu as les deux tiers de l'immeuble qui est magnifique, qui a été ravalé, puis un tiers qui n'a pas été, une marquise qui est prête à tomber. Enfin, bref, et puis des petits drapeaux avec le vent qui étaient dans tous les états.
Qu'est-ce que foutent ces drapeaux-là ? La marquise est prête à tomber. La noblesse est plus qu'elle est.
Ces drapeaux, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une promotion de Monoprix pour...
Finalement, non.
Enfin, parce que figure-toi que j'ai pu comprendre que c'était des drapeaux qui étaient là pour indiquer que nous avions à Narbonne, comme à Perpignan et à Béziers, des matchs du championnat du monde des moins de 20 ans.
De rugby. À 15.
De rugby, à 15, oui, bien sûr. Alors que dans Narbonne même, à part, il y a deux effectivement grandes affiches là, sur les lampadaires de l'hôtel de ville qui signalent, mais il faut vraiment lever la tête pour les voir, en fait, hein, ce que je n'avais pas remarqué entre parenthèses. Pourtant, j'ai regardé attentivement, j'ai fait un billet, les deux cabines téléphoniques exposées par Gaujal. Ce même soir, je pars direction Grusson parce qu'il faisait jour, etc. Et je passe devant le stade, forcément.
Oui, il y avait du monde.
Et je vois des bagnoles partout.
Le stade a été bien rempli.
Ça, c'était à 18h. Et quand je suis rentré à 21h, parce qu'il y avait deux matchs, dont un match à 20h30 avec l'Afrique du Sud contre je ne sais pas quel autre. Et quand je suis rentré, alors là, des bagnoles, il y en avait partout à l'aspirateur, sur les pelouses. Enfin, je ne veux pas
Le stade s'est bien rempli.
Et je me disais, mais voyons voir comment.
Mais c'était les aficionados
comment,
du rugby.
Comment un tel événement a-t-il pu passer comme ça, en fait, aussi discrète, en fait, sur la ville de Narbonne.
Il est resté dans le milieu.
Sur la ville de Narbonne, sur le territoire de l'Aglo, et sur le territoire de la région Occitanie, quand même. La région Occitanie, l'Aglo, en fait, et la ville de Narbonne recevaient le championnat du monde, en fait, de moins de 20 ans, des matchs télévisés dans le monde entier, en fait, entre parenthèses, hein, et dans ces villes, en fait, et dans ces aglos, rien, pas d'animation, pas de publicité un petit peu, alléchante, quoi, pour inciter les gens à parler de rugby.
Et là, véritablement, nul n'était prophète en son pays.
Non, je me dis quand même, franchement, alors je sais bien que le Racing n'est plus en Pro 2 et maintenant en fédéral, qu'ils ont pris en course à la casquette.
Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir.
Mais quand même, ça n'a rien à voir, quoi. Hein, on a quand même une ville où l'identité rugby, comme dans la région, d'ailleurs, est forte.
Perdure.
Donc j'étais un peu désolé de cette absence, je dirais, d'animation et de communication autour de cet événement. Je tenais, à le dire tout simplement, ici, très rapidement.
Voilà. Alors, deuxième sujet, le revenu de base.
Alors là, c'est autre chose, mon cher Jean-Claude, et c'est un peu plus compliqué, donc il va falloir prendre un peu plus.
Oui, alors revenu universel, revenu de base, essayer d'éclaircir.
Oui, les Narbonnais se souviennent peut-être, encore je ne suis pas sûr, l'information ne durant que quelques secondes, aujourd'hui, contrairement au passé. Bon, André Viola, le président du département de l'Aude, comme 12 autres de ses amis socialistes d'ailleurs,
sont partis en croisade
et à force communication d'ailleurs, leur désir, leur volonté d'expérimenter le revenu de base.
Au début, c'était un peu universel.
Et surtout, venant de présidents socialistes et de départements, ce genre d'initiative venant immédiatement, après l'élection présidentielle, où le candidat de leur parti, Benoît Hamon, avait trouvé comme martingale pour sa campagne le revenu universel de base, qui a été un grand succès.
Hein, 6%.
Je me dis, qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? D'autant que c'était très ambigu. En tout cas, dans les comptes rendus des journaux, il fallait vraiment être un spécialiste de la question pour comprendre ce qui était évident.
Oui, parce que marcher dans le sillage d'un tel échec, c'était quand même bizarre.
Alors, en réalité, après enquête quand même, et pas dans les journaux, un peu cherché, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait, en réalité?
Alors, qui est-il?
Contrairement à ce que suggère la campagne de communication, en fait, hein, ou, et les articles de presse qui l'ont commenté. Il ne s'agit pas de refaire le revenu universel de Benoît Hamon, qui a été sanctionné, donc quand même, quoi, hein, pas du tout. Hein. Il s'agit de mettre en place un revenu de base. Mais comment on dit universel, bon,
certains oui, disent, c'est
ça
bon.
Est ambigu. Donc,
quand
revenu
on
de base.
Pas du, vraiment dans le bain, on a du mal
revenu
à piger.
De base. Et revenu de base. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vais oui, de le préciser, si je fais cette chronique, c'est parce que notre député est toujours le même, enfin, Alain Perea, a fait une intervention à la fameuse séance de l'Assemblée, question au gouvernement, hein, où ils se régalent, là, nos députés, là, ils y vont, quoi, hein. Il y a la caméra, donc boum, c'est filmé, et ils tapent. Et là, il a envoyé un missile, en tout cas, je l'ai perçu comme tel. Le ton était quand même assez, comment dirais-je, agressif, quoi, hein, en disant, mais qu'est-ce que c'est, enfin, je caricature là aussi un peu, mais enfin, le fond est ça, qu'est-ce que c'est que ces présidents, en fait, de départements socialistes qui, en fait, bon, mènent une campagne politicienne, bon, il y a toujours la politique, ce genre de choses, hein, qui, alors que, bon, c'est pas tout ça qu'il faut faire, et d'ailleurs, vous allez voir, le gouvernement s'attaque à ce sujet, on en reparlera plus tard, et il demande donc des explications à son ministre, secrétaire d'État en charge de ces questions, qui est un ancien socialiste, d'ailleurs, hein, Olivier Dussopt, hein, qui avait fait campagne aussi, peut-être forcée, hein, pour Benoît Hamon. On est quand même dans une situation très, très drôle. Quoi,
que hein, bon. Ironie du sort.
Je fais la parenthèse, donc. Hein, et puis, alors, qu'est-ce que c'est que le revenu de base, aujourd'hui, tel que je l'ai compris, et Catherine m'arrêtera si je me trompe, quoi, et qui est aujourd'hui proposé par les départements, et notamment...
Notamment de l'Aude.
Il s'agit... ni plus ni moins, guillemets là aussi, que d'agréger deux ou trois, hein, premier scénario, deux aides, aujourd'hui distribuées par les départements, pardon, par les CAF.
Des aides existantes,
donc. Existantes, le revenu social d'activité et la prime d'activité. Premier scénario. Deuxième scénario, hein, on agrège le RSA, la prime d'activité, plus les APL, deuxième scénario. Et, alors, voir,
alors, les APL concernant le logement.
Logement, hein, pardon.
Précisons-le aussi.
Pardon. Alors, évidemment, il y a ces deux scénarios, mais il y a aussi des conditions d'éligibilité. Alors, aujourd'hui, ils hésitent. En tout cas, l'organisme qui a fait l'étude pour le compte de ces départements, qui est l'IPP, l'Institut, hein, est sous la houlette du plus jeune économiste, en fait, de France, qui avait obtenu un prix pour ce faire. D'après ses calculs, donc, on arriverait. Premier scénario, quoi, hein, pour les 20 000 en fait, personnes concernées par les 13 départements, hein, on arriverait à un coût de 4,8 millions par an. Pour le premier scénario.
Non, moins que ça.
Non, mais j'ai les chiffres d'IPP, moi, hein, donc je peux me tromper, mais en tout cas, c'est l'IPP qui...
Pour le deuxième.
Hein, et pour le deuxième de scénario, on arriverait hein, à une somme de... Bon, combien je vais dire, faut pas que je dise des bêtises, parce que si je dis des bêtises, je vais faire, bon, on est pas. Et le deuxième chiffre, voyons voir, je n'arrive pas à le trouver, bon. Bref, je n'arrive pas à le trouver. En tout cas. Restons sur le premier scénario.
Mystère.
Restons sur le premier scénario, bon. Qui me semble le plus raisonnable. Il n'empêche quand même que si ce scénario était appliqué à toute la France, à la généralisation, parce que
oui,
c'est ça
voilà, le. Maintenant.
Hein, ce serait entre 16 milliards d'euros. Hein, et un peu plus si hein, était éligible en fait à ce revenu de base les garçons en fait les jeunes filles en fait,
et les filles
de 18 garçons. Ans c'est-à-dire la majorité légale ou 21 ans c'est-à-dire l'autonomie fiscale enfin c'est des nuances un peu
compliquées.
Donc ce sont quand même des sommes considérables parce que cette proposition de revenu de base qui est présentée par le département hein, est proposée dans le cadre d'un droit à l'expérimentation. Hein, qui est prévu d'ailleurs par les textes, et que les départements, comme toutes les collectivités locales d'ailleurs, n'ont jamais utilisé à ma connaissance. La seule institution qui a utilisé le droit d'expérimentation, c'est l'État lui-même, notamment pour le RSA. Hein. Et donc là, bon, sauf que, ils sont contraints les départements, parce que dans le cadre de ce droit d'expérimentation, hein, on ne peut pas toucher aux critères d'éligibilité, aux critères d'attribution, etc. Parce que les aides en question, elles s'appliquent aujourd'hui, elles sont définies par l'État, et elles s'appliquent de manière universelle à tous, hein, à tous ceux qui sont possiblement hein, redevables de cette aide. Donc, voilà, les départements en sont là, et ils en arrivent à dire, bon, ben voilà, on est contraints, on ne peut pas, en fait, ça va coûter cher, etc. Donc,
grande question, comme toujours, d'où on sort l'argent?
Il faudrait peut-être modifier le droit d'expérimentation parce qu'il est trop contraint pour nous permettre de jouer en fait, sur les critères de revenus, sur les machins, etc. etc. Et donc, il faut réformer la Constitution.
Rien que ça.
Ce qui avait été promis quand même par Macron, en fait, sur le sujet pour assouplir justement les conditions du droit à l'expérimentation. Mais surtout, ça vient aussi perturber, en fait, une logique politique qui est aujourd'hui celle, en fait, avancée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui a déjà annoncé, en fait, qu'en 2017, en fait, en juin ou en juillet, il allait annoncer qu'il allait lui aussi mettre en place, en fait, hein, un versement social unique dès 2009.
Voilà. Donc le gouvernement travaille sur cette piste-là.
Oui, mais avec une logique tout à fait différente qui a été d'ailleurs dite par et présentée par Olivier Dussopt, ex-socialiste, à l'Assemblée, en disant, c'est bien joli, mais il faut surtout, en fait, que dans cette affaire-là, toutes ces dettes soient une voie de passage, hein, et qu'il y ait une contrepartie qui permette, en fait, aux bénéficiaires d'aller, effectivement, vers le travail.
Oui,
et c'est,
voilà,
ces questions-là, les conditions d'éligibilité, en fait, la possibilité de permettre au département un minimum d'autonomie et de liberté dans les critères d'attribution, en fait, des modalités de gestion de ces aides, et de la finalité, que le débat forcément va s'accentuer dans les mois qui viennent, notamment après le mois de juillet, je crois, où on doit faire des annonces sur le sujet.
Bien. Alors, un sujet qui reviendra sur la sellette immanquablement un jour. On marque une deuxième pause et nous retrouvons tout de suite après notre invitée du jour, Catherine Bossis.